Radio Okapi.
À la présentation du journal, Jocelyne Moussa Opondé. Moïse Katumbi regagne le pays ce lundi 20 mai par Lubumbashi. Le coordonnateur de la plateforme Lamouka dit avoir reçu du gouvernement toutes les garanties sécuritaires pour l'atterrissage de son avion à l'aéroport de la Luano. En Ituri, les groupes armés multiplient les attaques contre les FARDC. En deux semaines, 6 positions ont été attaquées, faisant plus de 20 morts. La situation inquiète les chefs coutumiers du territoire de Djougou. Le général Léon Richard Kasunga, commandant du service de la communication de l'armée, notre invité ce matin en marge de la commémoration le 17 mai de la journée des forces armées congolaises. Il s'exprime sur la situation actuelle des FARDC. Bonjour à tous. Moïse Katumbi arrive ce lundi 20 mai à Lubumbashi. Après avoir passé 3 ans en dehors du pays, le coordonnateur de la plateforme Lamouka a reçu du gouvernement congolais toutes les garanties sécuritaires pour que son avion atterrisse à l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi. Déclaration faite hier dimanche à Radio Okapi par le porte-parole de la plateforme Ensemble pour le changement et la coalition Lamouka. Le député national chérubin Okenge indique que Moïse Katumbi aura comme priorité l'instauration d'un climat de confiance entre leaders politiques pour consolider la réconciliation nationale. On écoute Chérubin Okenge au micro de Colin Djuma Moussampo.
Nous devons aujourd'hui confirmer encore une fois que la donne sécuritaire est une responsabilité constitutionnelle du gouvernement de l'État congolais. Et pour autant, pour Moïse Katumbi, cela doit être de la même manière pour tous les Congolais indistinctement. C'est de la responsabilité donc de l'État. Moïse Katumbi, coordonnateur en exercice de la coalition politique Lamouka, qui se trouve par ailleurs président de Ensemble pour le changement, il vient avec un message de réconciliation et de cohésion. National. Il souhaiterait, en voyant la misère du peuple congolais, que tous ceux qui sont de bonne foi, peu importe leur bord politique, qu'ils puissent privilégier la cohésion nationale, la réconciliation. Voilà pourquoi le message de Moïse Katumbi est déjà connu. Aux dernières nouvelles, j'avais suivi moi-même Antipas Mbusa Nyamwisi, qui avait déclaré qu'il n'y avait plus d'entrave quant à son retour au pays et que d'ici le mois de juin, il va s'organiser pour revenir au pays.
Et pendant ce temps, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, salue la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et la fermeture des cachots de l'ANR par le président Félix Tshisekedi. Cependant, elle dit poursuivre son combat jusqu'à la libération de tous les innocents, aujourd'hui en détention. Par ailleurs, à 10 jours de la célébration du 9e anniversaire du double assassinat des activistes de droits de l'homme, Floribert Tshebeya et Fidel Bazana, le président de l'AZADO a affirmé au cours d'une conférence de presse le week-end que la justice n'a pas été rendue de manière indépendante dans ce dossier. Il plaide pour la libération des prisonniers arrêtés dans cette affaire et qui purgent leur peine depuis près de 9 ans maintenant. On écoute Jean-Claude Katende au micro de Michel Kifindangoy.
L'ancien président Joseph Kabila avait déjà libéré un nombre important des prisonniers politiques. Le président Félix est venu, il a complété ses libérations. Est-ce qu'à ces jours nous sommes satisfaits? Nous ne sommes pas satisfaits parce que d'autres prisonniers que nous qualifions nous d'assimilés, notamment ceux du dossier Laurent Désiré Kabila, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a d'autres prisonniers d'un certain nombre de dossiers où nous pensons que la justice n'avait pas été rendue de manière indépendante, notamment dans les dossiers Floribert Tshebeya, où nous avons besoin que les personnes qui sont en détention aujourd'hui, que nous pensons que ce sont des personnes vraiment innocentes, qui ne devraient pas être là, doivent en fait profiter de cette décrispation politique pour que les dossiers Floribert Tshebeya soient réouverts et que les véritables auteurs et commanditaires soient traduits en justice.
Et puis cette nouvelle, l'ancien ministre de la Communication, Lambert Mende, a été interpellé hier dimanche à Kinshasa, selon des sources proches de la police nationale congolaise. Il s'est réimpliqué dans une affaire de trafic de diamants. La police explique qu'il a été invité par le service des renseignements pour fournir des détails concernant cette affaire. Pour sa part, Lambert Mende, qui est retourné chez lui hier, dit dans une interview à actualité.cd, n'est pas comprendre personnellement ce qui lui est arrivé. Il affirme, je cite, « Je suis convaincu que c'est une une manipulation des services de police par le ministre intérimaire de l'Intérieur, Basile Olongo, qui essaye de régler ses comptes avec moi étant donné que nous avons des litiges post-électoraux. Il veut profiter de son intérim pour me faire la peau. Fin de citation. Contacté par Radio Okapi, le ministre Basile Olongo a rejeté ces allégations. Rendons-nous à présent en Ituri. Des assaillants ont multiplié les attaques contre les positions des FARDC en territoire de Djougou. Les derniers cas ont été enregistrés le week-end au village lacustre de Gobunji et Mouvaramo, mais ils ont été repoussés par les forces loyalistes après des violents combats. Selon des sources sécuritaires, ces hommes armés cherchent à tout prix à prendre le contrôle des zones lacustres. Suivez ce reportage d'Isaac Rémo, rendu par Alain Irung.
Selon des sources locales, des combats ont opposé en fin de semaine les FARDC à un groupe d'assaillants au village de Gombunji, au bord du lac Albert, dans le groupement d'Indo, en secteur de Walendupitsi, en territoire de Djougou. Cette localité était occupée pendant quelques jours par ces hommes armés. Les FARDC ont réussi à les déloger et assurent le contrôle de cette entité. Le bilan des affrontements entre les deux parties n'est pas encore connu. Après cette défaite, un autre groupe d'assaillants a pris d'assaut les positions des FARDC au village de Mouvaramo, toujours au bord du lac Albert, mais ils ont été repoussés par l'armée. Des sources concordantes indiquent que c'est la sixième attaque des assaillants depuis environ deux semaines. Plus de 20 personnes, dont environ 6 militaires, sont déjà tuées au cours de ces attaques. Une situation qui inquiète les chefs coutumiers du territoire de Djougou. Ils demandent au gouvernement de mettre tous les moyens en œuvre pour mettre fin à l'insécurité grandissante dans la zone due à l'activisme des assaillants.
Restons en Ituri, où l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, promet de soutenir la MONUSCO et le gouvernement provincial pour relever notamment les défis sécuritaires. Il s'agit des problématiques de groupes armés FRPI et des ADF au sud d'Irumu et des assaillants au territoire de Djougou. Il a dit au cours de sa visite le week-end à Bounia, il a déclaré que la restauration de la paix en Ituri va encourager les investissements, notamment du gouvernement américain dans cette province qui regorge d'énormes potentialités. Suivant ses propos au micro Isaac Rémo.
C'est une situation compliquée, comme vous savez, avec quelques groupes Maïmaï, le FRPI, l'ADF. Nous sommes préoccupés pour ça et on le suivra. Et les États-Unis sont prêts à soutenir ce processus. Mais c'est vraiment la responsabilité et le travail du gouvernement régional, de la MONUSCO, tous les acteurs pour améliorer la situation. C'est intéressant le bon travail de la MONUSCO et aussi de la communauté. C'est essentiel pour avoir de la prospérité dans la région ici à Ituri, de commencer pour avoir la paix. Il n'y a pas maintenant d'investissement américain, mais c'est toujours possible. Si la sécurité est meilleure, il y a des potentiels. Si la situation de sécurité est améliorée, on pourra avoir des investissements américains qui peuvent venir.
Notez que pendant son bref séjour, Mike Hammer a rencontré les membres du comité provincial des sécurités, les staffs de la MONUSCO et des ONG internationales. Direction Nord-Kivu, le nouvel évêque du diocèse de Goma a pris son pouvoir canonique hier dimanche. L'évêque entrant, Mgr Willy Ngumbi, et le désormais évêque émérite, Mgr Théophile Kaboyi, ont échangé officiellement le pectoral du diocèse à l'issue d'une messe dite à l'occasion. Le nouvel évêque de Goma promet de contribuer à la stabilité de la région à travers une communion dans l'amour. Bernard Danyangi pour les détails.
Après son intronisation officielle par le nonce apostolique de la RDC, Mgr Ettore Balestrero, avant la passation officielle du pactoral, le nouvel évêque de Goma, dans son homélie, a promis de faire de la communion fraternelle un moyen de lutte contre la situation difficile que vit ce diocèse de Goma depuis une dizaine d'années, Mgr Willy Ngumbi.
Je voudrais aussi travailler en collaboration avec toutes les autorités politiques et militaires et que dans notre province du Nord-Kivu, nous puissions mettre fin aux tueries, au kidnapping, aux affrontements entre milices, groupes armés qui souvent sont entretenus à partir de Kinshasa.
Le directeur de cabinet et délégué personnel du chef de l'État a promis tout soutien au nouvel évêque pour faire revenir la paix dans la région. Vital Kamere.
Dans la République est convaincu que l'Église catholique a beaucoup fait pour que Monseigneur le Président voudrait que vous puissiez personnellement vous inscrire dans la ligne droite de votre prédécesseur.
Rappelons que Monseigneur Willy Ngumbi remplace à ce poste Monseigneur Théophile Kaboy, qui vient de diriger ce diocèse pendant 10 ans. En plus des promesses de soutien, le chef de l'État a offert une Jeep neuve comme cadeau au nouvel évêque. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
L'invité.
Notre invité est le commandant du service des communications de l'armée, le général Léon Richard Kasonga, à l'occasion de la commémoration le 17 mai dernier de la journée dédiée aux forces armées congolaises. Billy Von Lutumba lui a tendu le micro pour parler de la situation actuelle des FARDC. Suivez.
Général Léon Richard Kasonga, bonjour.
Bonjour.
Le 17 mai, la journée de l'armée nationale, les FARDC, comment l'état-major réagit-il à ces Congolais qui s'attaquent aux soldats qui sont en train de défendre l'intégrité territoriale, majoritairement dans la partie est?
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pour mission constitutionnelle de protéger l'intégrité du territoire, les frontières, mais également la population congolaise et ses biens. Elle assume également la protection de tous ceux qui ont choisi de vivre au Congo, étrangers et ainsi de suite. Dans le cadre de cette mission, elles ont l'obligation de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui constituent une menace contre la paix et la sécurité. Qui que ce soit qui s'aventure à s'attaquer aux forces armées de la République démocratique du Congo, tout celui qui ferait, poserait ou pose un acte pareil, il est ennemi de la paix, il sera traité conformément aux lois de la République. Ce sont des gens souvent considérés comme hors la loi. Nous allons, quoi qu'il en coûte, parce que c'est l'essence de notre serment, nous allons, quoi qu'il en coûte, mettre de l'ordre et sécuriser nos populations par le travail qui est la mission des forces armées.
Depuis 2008, il y a eu des activités qui ont commencé à être menées dans le cadre de la réforme de l'armée. Quelles sont les retombées de cette réforme sur le plan opérationnel d'abord et aussi sur le plan administratif?
Dans le cadre de la réforme initiée par les institutions légalement établies, il avait été décidé de mettre sur pied une armée nationale républicaine, une armée dissuasive capable d'identifier la menace et de l'anéantir, de la détruire. Dans le cadre de cette réforme, il avait été institué des zones de défense dans la mesure où ces entités organisées avaient pour objectif poursuivi en les créant, c'était de rapprocher les unités du théâtre de manière à raccourcir les délais d'intervention, mais également les délais de ravitaillement et de protection de nos populations. Depuis l'instauration de la création des zones de défense, mais également la mise sur pied à trois échelons des unités de couverture chargées de faire la surveillance du territoire, des unités de réaction rapide cantonnées dans des zones de défense ayant pour mission d'aller sur un théâtre, d'être projetées facilement et de venir leur cantonnement, également des unités de défense principale. Depuis que ces zones ont été créées, et depuis que dans les secteurs opérationnels fonctionnant dans les zones de défense, aujourd'hui, je vous dis très honnêtement que sur les théâtres, nous avons le contrôle des zones et nous faisons notre travail de très belle manière, au point que le sens de la réforme se trouve respecté, parce que depuis que ce mécanisme a été mis en place et que les unités ont été rapprochées du théâtre des combats, les travaux se font très bien de manière professionnelle. Nous nous sommes professionnalisés et nous continuons à nous professionnaliser chaque jour davantage. En 2003, nous avions une armée composite qui comprenait tout ce que vous venez de citer. Aujourd'hui, nous avons des unités professionnelles formées dans des centres d'instruction, dans des centres d'entraînement, mais également dans toutes les écoles militaires fonctionnant dans notre pays. Au bout de cela, non seulement les unités ont été formés, mais également ont été équipés de manière adéquate. Au bout de tous ces processus, deux ans durant, nous avons été classés 10e armée parmi les meilleurs. Et aujourd'hui, nous sommes 9e armée en Afrique et 72e dans le monde. Et ceux qui ont fait ce classement, c'est des gens aux États-Unis qui regardent et suivent l'évolution des différentes armées dans le monde en fonction des critères de performance sur le terrain pour indiquer la menace, en fonction des équipements de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine, en fonction du respect des droits de l'homme, en fonction du respect des règles d'engagement.
Retombée positive en général, que diriez-vous de ces Congolais en déplacement qui sont tués tout le temps à Beni et leurs familles disent, mais où est notre armée?
Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, je vous dis, l'armée est présente, elle fait son travail, tout ce que je peux demander, aussi bien à la population que aux faiseurs d'opinion. Je dis, soutenez l'armée, c'est l'unique que nous avons, les forces armées de la République démocratique du Congo, notre population. En insistant sur le devoir citoyen, et là aussi, le devoir de nous dire où se trouve l'ennemi, elle nous aide alors à aller le neutraliser pour mieux assurer sa propre sécurité.
Qu'est-ce que le militaire congolais doit maintenant retenir partant de cette célébration de la journée de l'armée nationale pour l'année 2019?
Il doit retenir que son sacrifice est connu, est respecté, honoré et magnifié par la nation congolaise reconnaissante qui a dédié la date du 17 mai à son armée, à ses soldats. Parce que n'oubliez pas, nous militaires, nous sommes les derniers ouvriers au service de notre peuple. Et notre peuple, à travers cette date, communie avec nous, reconnaît le sens de notre sacrifice et magnifie notre comportement.
Général Léon Richard Kasonga, Radio Capi vous dit merci.
Merci bien.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.